Matt Productions. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Lecture pour les Kids, l'émission qui propose aux agents des bibliothèques d'Aglopolis de lire une sélection d'albums jeunesse pour toutes les petites oreilles. Cette semaine, Enrique, Chantal et Nadège de la bibliothèque de Chaï vous proposent leur sélection. Bonne écoute!
Les papas de Violette. Un album d'Émilie Chazeran et de Gaël Soupard aux éditions Gauthier Langros.
À l'école, j'ai zéro copine. Un jour, Cécile m'a dit que c'est parce que je suis trop bizarre. Ma mère m'a dit ton secret et moi je vais le répéter. Hé, tout le monde, devinez quoi ? Violette a deux papas. Ils se tiennent par la main et ils se font des câlins. Il y en a qui ont dit et c'est dégoûtant. D'autres se sont approchés de moi comme des fourmis sur un carré de chocolat. Mais alors, t'as pas de maman du tout? Ça, c'est vraiment fou. T'es sûre que t'es une vraie fille? Ça se trouve, t'as un zizi. Mon père, il dit qu'un garçon qui aime un autre garçon, c'est une maladie. Ils se sont tous mis à crier « Au secours, on va attraper le violetus. C'est super contagieux comme virus. » Je n'ai pas répondu. Je n'ai même pas bougé. J'ai juste attendu la fin de la récré. J'ai fait comme si de rien n'était, jusqu'à ce que je rentre à la maison. Papa était en train d'éplucher des oignons. Je l'ai bien regardé. Il ne toussait pas. Il n'avait pas le nez qui coulait. On n'aurait vraiment pas dit qu'il avait une maladie. « Coucou, ma fille préférée. On va bientôt dîner. Tu as un appétit d'ogre ou un appétit d'oiseau ?» J'avais un appétit de caillou, le ventre dur et pas fin du tout. Mais j'ai quand même dit « Un appétit d'ogre !» pour ne pas lui faire de peine. Parce que j'aime mon papa et j'aime mon papou. Je ne les échangerai contre aucune maman. Papa m'apprend à danser le tango en me faisant grimper sur ses pieds. Bon, il me fait descendre vite parce qu'il a dit qu'il a besoin des orteils encore quelques années. Si je vomis à cause de la gastro, il tient mes cheveux en disant « Ça va aller, ma petite poupée !» Chaque soir, il me lit une histoire et il fait toutes les voix. Celle du petit chaperon rouge, de Barbe Bleue, de Maître Chat. J'adore, même s'il s'endort avant moi. Papou m'aide pour les maths et il cache sa bouche derrière ses doigts pour ronchonner quand je ne comprends pas. Il me prépare de la tisane au miel quand j'ai mal à la gorge ou aux oreilles. Et si je fais un cauchemar, il déboule à toute vitesse dans le noir. Il me berce en chuchotant. Je suis là, dors tranquillement. Mais c'est difficile avec tous ces ronflements. Mes pères me font des coiffures bizarres qui me donnent l'air folle dans le miroir. Ils me bichonnent comme un bichon et me gratouillent comme un chaton. Ils m'obligent à continuer le violon alors que je joue comme un jambon. Ils me font les gros yeux si je ne vide pas mon assiette, même quand c'est des salsifis et de l'andouillette. Ils font plein de photos de moi où je ressemble à un rat et ils les accrochent partout pour que tout le monde les voie. Bref, ils m'aiment tout le temps, comme n'importe quel parent. Et on peut dire que je suis une spécialiste dans ce domaine-là. J'ai lu un tas de livres sur les papas. Le père du petit poussé l'abandonne dans la forêt. Celui de Peau d'âne veut l'épouser. Et le père de Cendrillon, je n'en parle même pas. Il se choisit une très méchante femme, celui-là. Mes parents ne sortent pas d'un conte de fées. Ils n'ont pas de bottes de sept lieues. Eux, ils règlent leurs pas sur le mien pour qu'on avance ensemble sur le chemin. Ils me disent que je suis une étoile, une perle, un génie. Je sais que ce n'est pas vrai, mais ça me plaît. Je suis quand même triste parfois, et pas pour ce qu'on croit. Mes pères ne sortent pas de la voiture quand ils viennent me chercher. Ils ne sont jamais devant la grille avec les autres papas à me faire de grands coucous avec le bras. Ils ne sont pas tous les deux présents aux fêtes de la classe. Ils ont peur que ça m'embarrasse. Ils se font toujours tout petits. Et ça, ça m'ennuie. Et puis, toutes les activités, la piscine, le planétarium, le cinéma ou le muséum, c'est soit avec papa, soit avec papou. Jamais ensemble, tous les trois. Je déteste ça. Parce que mes deux papas sont comme mes deux bras, mes deux pieds ou mes deux oreilles. S'il m'en manque un, ce n'est plus pareil. J'avais un peu peur en retournant à l'école. J'avais la tremblotte et les jambes qui flageolent. Mais quand je suis arrivée, j'ai vu Cécile en train de pleurer. Et aucune de ses copines ne l'approchait. Papa est parti hier. Il m'a dit bonne nuit. Ce matin, il avait disparu. Maman dit qu'il ne reviendra plus. Avoir zéro papa, c'est pire que d'avoir zéro copine, je crois. Je lui ai pris la main pour nous mettre en rang, et elle n'a pas trouvé ça dégoûtant. Peut-être qu'elle croyait qu'en attrapant le Violetus, elle aurait un papa en plus. On est devenues copines, toutes les deux. Elle vient souvent à la maison faire des jeux. Elle aime tout ce qu'il y a chez moi. Le piano, la cheminée, les tableaux, les dessins animés. Mais ce qu'elle préfère entre tout ça, ce sont mes deux papas. La tétine de Nina, de Christine Naumann-Villemain, illustration de Marianne Barcilon, aux éditions Kaléidoscope.
Quand vas-tu enfin arrêter de sucer cette tétine ? Demande maman. Jamais, répondit Nina. C'est ma tétine. Mais quand tu seras grande, tu vas bien t'en débarrasser. Nina met sa tétine dans sa bouche. Jamais, jamais, jamais. Alors, quand tu iras te promener, tu la prendras ? Bien sûr, avec mes gâteaux et mon coca-cola. Et quand tu iras à la piscine, tu l'emporteras ? Oui, je plongerai avec. Et quand tu seras une grande personne et que tu partiras au travail, tu la garderas ? Oui, d'abord, tu auras toujours ma kékine. Mais quand tu te marieras, tu n'auras quand même pas ta tétine. Si, elle est très jolie avec une belle robe. Et là-dessus, Nina va dehors. Soudain, un loup sort du bois. Un loup affreux, furieux et affamé. Ah, petite fille, je vais te manger. Oh, s'écrie Nina. Aide-moi tranquille. Quoi ? Fait le loup qui n'a rien compris. Nina répète. Aide-moi tranquille. Décidément, le loup ne comprend pas. Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? C'est pas beau, c'est pas gentil. Et tu sens mauvais. Laisse-moi tranquille. Le sang du loup ne fait qu'un tour. Ah oui, je ne suis pas beau. Je ne suis pas gentil. Je sens mauvais. Tu vas voir ce que tu vas voir, petite fille. Ah ! Et poc ! Nina met sa tétine dans la gueule. Tiens, suce. Ça te calmera. Le loup n'a plus trop envie de manger Nina. Le loup affreux, affamé et furieux est devenu un loup tout doux, tout mou, gros doudou. Avec un petit rire, il disparaît dans le bois. Plus jamais il ne reviendra. Nina rentre à la maison. « Eh bien, tu n'as plus ta tétine, s'étonne maman. J'espère que tu ne l'as pas perdue. » Non, répondit Nina. Donner à quelqu'un qui en avait vraiment besoin. Bébé chouette. Texte de Martin Vadel, illustration de Patrick Benson, aux éditions Kaléidoscope.
Il était une fois trois bébés chouettes. Sarah, Rémi et Lou. Ils vivaient dans un trou de tronc d'arbre avec leur maman chouette. Dans le trou, il y avait des brindilles et des feuilles et des plumes de chouette. C'était leur maison. Une nuit, ils se réveillèrent et leur maman chouette était partie.
« Où est maman ?»
demanda Sarah.
« Oh mon Dieu !» dit Rémi. « Je veux ma maman !»
dit Lou. Les bébés chouettes se mirent à réfléchir.
Toutes les chouettes réfléchissent beaucoup.
Je crois qu'elle est partie chasser, dit Sarah.
Pour nous rapporter à manger, dit Rémi. Je veux ma maman,
dit Lou.
Mais leur maman chouette ne rentra pas.
Les bébés chouettes sortirent de leur maison, s'assirent sur l'arbre et ils attendirent. Une grande branche pour Sarah, une petite branche pour Rémi et une vieille petite tige de lierre pour Lou.
« Elle va rentrer, » dit Sarah.
« Rentrez bientôt, » dit Rémi.
« Je veux ma maman, » dit Lou.
Il faisait noir dans les bois. Et il leur fallait du courage, parce que ça gargouillait tout autour d'eux.
« Elle va nous rapporter des souris et d'autres bonnes choses, » dit Sarah.
« Je suppose, » dit Rémi. « Je veux ma maman, » dit Lou.
Assis, ils se remirent à réfléchir. Toutes les chouettes réfléchissent beaucoup.
Je pense que nous devrions tous nous mettre sur ma branche, dit Sarah.
Et c'est ce qu'ils firent, tous les trois ensemble.
Imagine qu'elle se soit perdue, dit Sarah.
Ou qu'un renard l'ait mangée, dit Rémi. Je veux ma maman, dit Lou.
Et les bébés chouettes fermèrent leurs yeux de chouette et formèrent le vœu que leur maman chouette rentra bientôt. Et elle rentra. Douce et silencieuse, elle descendit à travers les arbres jusqu'à Sarah, Rémi et Lou.
« Maman !» s'écrièrent-ils, et ils battirent des ailes, et ils dansèrent, et ils sautillèrent sur leurs branches.
« Que d'histoire !» dit leur maman chouette.
« Vous saviez bien que j'allais rentrer !»
Les bébés chouettes réfléchirent encore.
Toutes les chouettes réfléchissent. Ouh.
Je le savais.
Alors,
je le savais aussi.
Rémi.
J'aime ma maman.
Lou.
Cap Horn, un album de Laurence Gillot avec les illustrations de Thomas Bass, aux éditions Nathan.
Le camion poubelle, s'écrie Tim. Le petit garçon abandonne tout. Ses voitures, son train, son hélicoptère et court vers la fenêtre. C'est le grand à lunettes et le tout frisé qui travaillent aujourd'hui. Ils emportent la poubelle et la vident dans la benne. Le tout frisé abaisse une manette et la grosse mâchoire de fer broie les ordures. C'est le moment que Tim préfère. Comme d'habitude, le grand à lunettes lui fait bonjour de la main. Tim lui répond et le camion repart. Tous les soirs, sans exception, c'est ainsi. Tim regarde passer les éboueurs. Le jour des 5 ans de Tim, son papa lui confie. « Pour ton anniversaire, j'ai eu l'idée d'un cadeau pas comme les autres. victime ouvre grand les yeux. C'est un cadeau sans ruban ni papier. On ne peut pas l'emballer. Ce soir, Tim attend la suite sans rien dire. Ce soir, continue son papa, toi et moi, on va suivre les éboueurs. Tim sourit. C'est un grand sourire de bonheur. Assis dans leur voiture, Tim et son papa attendent l'arrivée du camion. « Le voilà !» s'écrie Tim. Le grand à lunettes et le tout frisé emportent la poubelle et la vident dans la benne. Le tout frisé abaisse la manette et la grosse mâchoire de fer broie les ordures. C'est le moment que Tim préfère. Puis le camion redémarre et Tim et son papa le suivent. Les hommes sont debout, accrochés à l'arrière. Le camion ralentit. Le grand à lunettes et le tout frisé sautent. Le camion s'arrête. Les éboueurs poussent, roulent, tirent, renversent les poubelles. Ils courent et crient. Tim adore ça, les observer. Le camion avance de nouveau, doucement. Tim ferme les yeux. Il entend des « bing », des « bang », des « pfff », des « crrr ». Le camion freine, puis repart. Tim rouvre les yeux et voit tout orange. Ses mains, le visage de son papa, les maisons, la route. Tout, même la nuit est orange, dans la lueur des gyrophares. Et le camion s'immobilise de nouveau. Tout à coup, le grand à lunettes s'approche de la voiture. Le papa de Tim baisse la vitre. « Vous n'osez pas nous doubler ?» questionne les boueurs. « Ça fait longtemps que vous roulez derrière nous. » « On le fait exprès, » répond Tim.
« Exprès ?»«
Oui, » explique le papa. « Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon fils. Et vous êtes son cadeau. On vous suit parce qu'il aime vous voir travailler. »
Le grand à lunettes regarde attentivement Tim et s'écrie. « Mais on se connaît. Je te fais toujours coucou quand je passe devant chez toi. Justement, tout à l'heure, j'ai regardé ta fenêtre et tu n'étais pas là. »
Tim est intimidé. « Ça te ferait plaisir de venir avec nous ?» demandent les boueurs. Le petit garçon sent son cœur battre à toute vitesse. Il se tourne vers son papa. « Je peux, dis ?»«
Oui, je garde la voiture et on y va. »
Tim est à l'arrière du camion, installé sur le marchepied. Il voit tout de tout près. Les deux éboueurs font rouler les poubelles, les accrochent et les font basculer au-dessus de la benne. « Tire sur cette poignée !» propose tout frisé. Tim abaisse la manette en tremblant et la grosse mâchoire écrase bruyamment les ordures. Ça sent mauvais, mais c'est encore le moment que Tim préfère. Tim a l'impression d'être au bord de la gueule d'un monstre. Un peu plus tard, le grand à lunettes annonce que la benne est pleine et qu'il faut rentrer au dépôt. « Tu viens avec nous, bonhomme ?» demande-t-il. « Oh oui !» s'exclame Tim. Tim est maintenant assis dans la cabine entre son papa et le conducteur. C'est la première fois qu'il monte dans un si gros camion. Au dépôt, le gros à lunettes propose à Tim. Est-ce que tu voudrais visiter notre caverne aux merveilles ? Tim est d'accord, bien sûr. Et il glisse sa main dans celle de son nouvel ami. Elle est plus grosse que celle de son papa. Elle est plus chaude aussi. C'est ici. Le grand à lunettes en s'arrêtant devant une porte bleue. Ferme les yeux. Ne triche pas. 1, 2, 3. Oh ! Souffle Tim. Du sol au plafond, il y a des étagères. Des étagères pleines de jouets cassés, de peluches, de poupées, de camions, de tambours, de petits pianos déglingués. Et sur une table, il y a des boîtes de roues, d'yeux, de bras, de jambes, de ressorts. « Elle te plaît, notre caverne ?» demande le grand lunette.
« Oh oui !»
balbutie-t-il. « Tu sais, tout ça, c'est ce que mes camarades et moi on récupère dans les poubelles, » expliquent les boueurs. « Ici, c'est notre atelier. Mais attends, tu n'as pas tout vu. » Le grand à lunettes ouvre une armoire et dit « Je te présente Mademoiselle Bégonia. Je l'ai trouvée rue des Bégonias.
Elle ne pouvait plus marcher, alors je l'ai réparée à ma façon. Lui, c'est le cerf Anatole de l'avenue Anatole France. Je l'ai recousu et je lui ai rendu la vue. Ce nounours-là, c'est Joli Cœur. Je lui ai sauvé la vie. Il traînait dans le caniveau de l'impasse du Joli Cœur. Il était maigre comme un clou, il ne tenait plus debout et il n'avait plus de nez, plus de moustache. Je l'ai soigné. Et voici Cap Horn. Je l'ai fabriqué avec 11 peluches différentes. C'est mon préféré. Tim admire Cap Horn en silence. C'est un ours étrange. Il est très... très... beau, bafouille-t-il enfin. C'est un nom bizarre, Cap Horn. Le grand à lunettes saisit un globe tout cabossé et il montre à Tim un morceau de terre qui ressemble au doigt d'une sorcière. Le Cap Horn, c'est ici, bonhomme. Et il ajoute plus bas. J'aimerais tant y aller. C'est loin, se renseigne Tim. Oui, très loin. Chaque mois, j'économise de l'argent pour le voyage. Un jour, je partirai. C'est pour ça que Cap Horn s'appelle Cap Horn ? Oui. Et toi, bonhomme, tu en as des rêves ? Tim réfléchit et murmure. Moi, mon rêve, c'était de monter dans votre camion et il s'est réalisé. Le grand à lunettes a une idée. Il s'accroupit devant Tim et lui demande. Si je t'offre Cap Horn, tu en prendras soin. Oh oui, tu l'aimeras très fort. Alors il est à toi. Bon anniversaire, bonhomme, dit l'éboueur. Merci, répond Tim en serrant fort l'ours contre lui. Puis il regarde une dernière fois la caverne aux merveilles avant de retourner dans le camion, puis dans sa voiture, puis dans sa maison. Désormais, tous les soirs, Tim s'écrie. Voilà mes amis! Et le petit garçon abandonne tout. Ses voitures, son train, son hélicoptère. Il attrape Cap Horn et file à la fenêtre. Les éboueurs emportent la poubelle et la vident dans la benne. Le tout frisé abaisse la manette et le monstre engloutit les ordures. Le grand à lunettes lève la tête vers Tim. Il embrasse sa main et il souffle dessus. Maintenant, c'est le moment que Tim préfère. Il attrape la bise volante et la pose sur sa joue, content. Voilà plusieurs semaines maintenant que le grand à lunettes ne travaille plus. Son amitié, ses baisers dans les airs manquent à Tim. Chaque soir, il se demande où est son ami. Chaque soir, il espère le revoir. Et puis, un matin, une carte postale arrive pour Tim. Son papa la lui lit. Ça y est, bonhomme, j'y suis. Je t'envoie des baisers volants du Cap Horn. À bientôt. Tim sourit. C'est un grand sourire de bonheur. Puis il s'écrie. Tu entends ça, Cap Horn? Il a réalisé son rêve.
À cœur joie, un album de Corinne Aversis et d'Isabelle Follat, aux éditions Kiman.
Alice aimait sa mamie. Elle aimait ses délicieux gâteaux, elle aimait ses petits bibelots et son chat Roméo. Et par-dessus tout, elle aimait son sourire. Mais ces derniers temps, mamie ne faisait plus de gâteaux. Les bibelots prenaient la poussière, et Roméo avait le poil tout emmêlé. Pire que tout, mamie ne souriait presque plus. « Qu'est-ce qu'elle a, mamie ?» demande Alice à sa maman. « Je ne sais pas, » répondit maman. « C'est un peu comme s'il n'y avait plus de joie dans sa vie. quoi la joie ? Demanda Alice. La joie est ce qui rend ton cœur heureux et qui fait pétiller tes yeux. Comme qu'on se met tous à danser à la fin du dîner ? Ou qu'on attrape un fou rire avec Paul ? Ou que je dévale un grand toboggan ? Oui, ça fait comme un grand ziou, dit maman. Mamie aussi méritait un peu de ziou, pensa Alice. Et si la joie s'était échappée de la vie de mamie, elle se chargerait elle-même de la lui rapporter. Mais où Alice pouvait-elle trouver de la joie ? Et comment pourrait-elle l'emporter chez mamie ? Elle chercha dans la maison de quoi se constituer un petit kit de collecte. Un bocal, un sac en papier, une casserole, une boîte sans couvercle, un couvercle sans boîte, une épuisette et un bâton pointu. Tout rentra plus ou moins dans son sac. Cet après-midi-là, Alice se rendit au parc avec sa maman. Elle était sûre d'y trouver plein de joie et personne ne lui en voudrait d'en attraper un peu pour mamie. Un petit chien courut vers Alice pour lui faire la fête. Ses grandes oreilles sautaient dans tous les sens. En haut, hop, en bas, hop. Alice gloussa. Elle avait senti un ziou de joie. Elle tenta de capturer un hop. Mais il ne rentra pas dans la boîte. Balançoire, un bébé éclatait de rire à chaque fois que son papa lui chatouillait les pieds. Chatouille, éclat de rire. Chatouille, éclat de rire. Alice aussi éclata de rire et elle ressentit un ziou de joie. Elle essaya d'attraper des éclats de rire et d'attraper les chatouilles. Mais ni les éclats de rire, ni les chatouilles ne rentrèrent dans le bocal. Devant la mare, Alice contempla un rayon de soleil qui scintillait dans l'eau. Elle sourit. Encore un ziou de joie. « Mamie va adorer ça, se dit. » Alice tenta de s'emparer du scintillement avec l'épuisette d'abord, puis avec le sac en papier, enfin d'un coup de casserole. Mais le scintillement disparut. Trouver de la joie, c'était facile, mais l'attraper était bien difficile. Alice rentra chez elle le cœur lourd. Elle aimait sa mamie et voulait lui remettre de la joie dans sa vie. Mais son kit de collecte était vide. Mamie somnolait dans son fauteuil. Alice haussa la tête sur son bras. « Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas ? » demanda mamie. « Je voulais te rapporter de la joie, mais je n'ai pas réussi, » répondit tristement Alice. Alice raconta à sa mamie toute la joie qu'elle avait ressentie. Grande surprise d'Alice. Mamie sourit. C'était le plus grand, le plus beau ziou qu'Alice avait jamais vu dans un sourire. Tu n'as pas besoin ni d'une boîte, ni d'une épuisette pour m'apporter de la joie, dit mamie. Tu m'apportes toute la joie du monde en étant tout simplement toi-même. Le lendemain, Alice se rendit au parc avec sa mamie. Ziou ! Ensemble, elles trouvaient de la joie dans les moindres recoins. Et cette fois, le sac d'Alice était rempli des délicieux gâteaux de mamie. Il y en a qui disent Émilie Chasseran, Maureen Poignonec, aux éditions L'Élan Vert.
Dans ma classe, il y a une bestiole, mi-ogre, mi-dragon, mi-sorcière. Un machin qui ressemble à une grosse boule chevelue en colère. Tout le monde en a peur, même les directeurs. Avec Césarine, ma super méga meilleure copine, on en parle sans arrêt. Même une fois pendant la dictée. Césarine est toujours au courant de tout ce qui se passe. Elle a un espion dans chaque classe. Elle veut devenir journaliste vedette, comme Jean-Pierre Pernaut, mais en plus chouette. Voilà les choses qu'elle m'a racontées et que je suis sûre que c'est vrai. Je les ai toutes notées dans mon journal secret pour ne rien oublier. Il y en a qui disent que Berthe la bête s'appelle Bernadette et même qu'elle serait une fille en fait. Mais je crois que c'est un truc qu'on a inventé pour nous rassurer. Il y en a qui disent que Berthe la bête porte des os de chat en guise de collier et qu'elle mange les petits du CP pour le goûter. C'est pour ça qu'il manquait Justin et Amandine à la cantine. Il y en a qui disent que Berthe la bête a redoublé le CE2 32 fois et que c'est pour ça qu'elle est plus grande que tous les gars. Il y en a qui disent que Berthe la bête fait un numéro de cirque les samedis. Elle est la seule au monde à dresser des grizzlies. Ils croient sûrement qu'elle est de leur famille, hein. Il y en a qui disent que Berthe la bête est la fille croisée d'une yéti et du monstre du Loch Ness. C'est pour ça qu'elle nage super vite et qu'elle a du poil aux fesses. Moi, quand Berthe la bête me regarde fixement, je tremble comme un flan. J'aimerais me transformer en petit rat pour m'enfuir très loin de là. La semaine dernière, j'ai été prise dans la souricière. Césarine m'avait pourtant prévenue, mais moi, je ne l'ai pas cru. Il y en a qui disent que la maîtresse va nous mettre deux par deux pour préparer la fête de l'école et tu seras avec Berthe la bête. C'est pas de bol, hein? Et comme Césarine a toujours les bonnes informations, elle avait raison. Berthe la bête m'attendait sous le préau. J'avais mal au ventre. Comme le jour où j'ai vomi mes spaghettis bolo. Elle m'a demandé avec sa grosse voix, « Tu veux venir chez moi ?» Bien sûr que non, je ne voulais pas. Mais j'avais si peur que je l'ai suivie sans discuter. Et là, j'ai découvert la vérité. J'ai encore tout noté dans mon journal secret pour ne rien oublier. Berthe la bête habite dans une maison très jolie. Il y a un jardin avec un pommier, une balançoire et son chat Dimitri. Dans sa chambre, il y a un lit à baldaquin et des tonnes de bouquins. Il y a même un tapis tout doux en forme de nuage. On s'est assis dessus pour découper des images. Berthe la bête a une maman qui ne ressemble pas du tout à une yéti. Elle a des cheveux blonds et une bouche rose comme Barbie. Elle nous a donné de la tarte aux abricots et un verre de limonade. C'était vraiment une régalade. Berthe la bête est la grande sœur d'un bébé très rigolo. Il n'a pas encore de dents et il bave comme un veau. Il marche à quatre pattes et sa tête chauve a l'air d'une grosse patate. Il rigole beaucoup, surtout quand Berthe la bête lui fait des guilis et des bisous. Ça se voit qu'elle aime comme tout. Berthe la bête adore les mêmes choses que moi, les bonbons rubans, le papier mâché et les lamas. Elle connaît toutes les blagues de Toto et elle sait faire le cri du chameau. Elle est si gentille que j'ai complètement oublié que je devais être effrayée. Et puis aussi, elle m'a dit « Tu sais, je n'aurais pas cru qu'on deviendrait copine pour de vrai. » Parce que il y en a qui disent que tu t'appelles Anna Moche et pas Annabelle, et que tu te trouves tes habits dans des poubelles. Il paraît que c'est pour ça que tu sens le roquefort à plein nez. Mais moi, c'est un fromage que j'aime assez, hein. Il y en a qui disent que tu es nul en dictée, c'est parce que tu es bête comme tes pieds. On raconte que tu devrais être encore au CP, mais que ta maman a donné des sous au Durlot pour enlever tous tes zéros. Mais moi, je m'en fiche de tout ça. Je te trouve quand même très sympa, hein. C'était affreux, horrible, dégoûtant. C'est n'importe quoi ce qu'inventent les gens. Je n'arrêtais pas d'y penser. J'y pensais en partant de chez Bernadette. J'y pensais le soir devant mon assiette. J'y pensais même sur les toilettes et encore sous la couette. Bon, après, je me suis endormie, mais je suis sûre que j'y pensais un peu dans mes rêves. Le lendemain matin, À l'école, Césarine a couru vers moi. Il y en a qui disent que tu es la nouvelle meilleure amie de Berlabette et que vous avez attrapé des hérissons pour en faire une omelette. On raconte que vous vous êtes régalée et que vous êtes allée faire peur aux mémés du quartier. Il y en a qui disent que... Et là, je me suis vraiment fâchée. Il y en a qui disent de grosses bêtises. Césarine avait l'air très étonnée, mais je n'avais pas tout à fait terminé. Moi, je te dis que tu racontes toutes ces histoires méchantes pour faire ton intéressante. Tu ne seras jamais journaliste vedette. Jean-Pierre Pernaud, il est bien plus chouette. Il y en a qui disent qu'à la fête de l'école, Berlabette et Anna Moche se sont déguisées en grizzly pour faire un super numéro d'acrobatie. Il y en a qui disent qu'elles ont reçu un tonnerre d'applaudissements de la part de tous les parents. Il y en a qui disent qu'elles sont super douées, ces filles, et qu'elles feront de grandes choses dans la vie. Il y en a qui disent, pas que des bêtises.
Aller à l'école de Stéphanie Blake à l'école des loisirs.
Il était une fois un lapin coquin que vous connaissez bien. Lorsque sa maman lui dit « Demain, c'est ton premier jour d'école, mon chéri », il répondit « Ça va pas, non ?» Lorsque son papa lui dit « Mais mon petit lapin, tu vas apprendre l'alphabet », il répondit « Ça va pas, non ?» Et ce soir-là, Simon n'arrivait pas à s'endormir. « Maman ! Je ne veux pas aller à l'école !» Lorsque sa maman lui dit « Tu es le plus courageux de tous les petits lapins. Tu es mon super lapin !» Il répondit « Ça va pas, non ?» Le lendemain matin, lorsque sa maman lui dit « Dépêche-toi de manger tes tartines, mon petit lapin. Il faut bientôt partir pour l'école. » Il répondit « Ça va pas, non ?» En chemin, lorsque son papa lui dit « Tu vas te faire des amis et tu vas apprendre plein de nouvelles choses. Tu es mon grand lapin. » Il répondit « Ça va pas, non ?» Devant l'école, lorsque son papa l'embrassa, il lui dit « À tout à l'heure, mon chéri. Je te laisse ici. » Une toute, toute petite voix, il répondit « Ça va pas, non ?» À l'école, il se passa mille choses. Tout d'abord, il pleura. Puis il dessina. À la récré, il joua. À la cantine, il mangea de la mousse au chocolat. Ensuite, il se reposa. L'après-midi, il tambourina. Et à 4h30, lorsque sa maman arriva, elle lui dit « On rentre à la maison, mon chéri. » Simon répondit « Ça va pas, non ?»
Un bébé, quelle drôle d'idée! Un album de Fanny Julie et de Roser Capdevila aux éditions Hachette Jeunesse.
Je m'appelle Gudule. J'ai une trousse pleine de billes, des chaussures vernies qui brillent. Ma maman fait souvent des crêpes. Mon papa m'emmène au cinéma. Jusqu'à maintenant, tout allait bien pour moi. Mais brusquement, à la piscine, remarquez que le ventre de maman était tout rond, un peu comme si elle avait avalé un petit ballon. Le soir même, mes parents m'ont annoncé qu'on allait avoir un bébé. Un bébé ? Quelle drôle d'idée ! On va avoir un bébé ? Mais on, c'est qui ? Et moi aussi ? Il faudrait peut-être me demander mon avis. Je n'ai jamais dit que je voulais un bébé, moi. J'en parlais à l'école. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Bertrand m'a dit que les bébés, ça pleure tout le temps. Et tellement fort que même en se mettant de la pâte à modeler dans les oreilles, on les entend encore. La petite sœur, quand elle dort, personne ne doit faire de bruit. Mais elle, elle ne se gêne pas pour réveiller tout le monde au milieu de la nuit. Marie m'a dit que les bébés, ça comprend même pas ce qu'on dit. On leur met un bonbon sous le nez, ça ne sait même pas l'attraper. Et en plus, ça vomit. On ne se rend pas compte de la catastrophe qui nous pend au nez. Plus le ventre de maman s'arrondit, plus ils ont l'air ravis. Maintenant, son ventre est gonflé comme un ballon de foot, vraiment. Au milieu du dîner, j'ai dit « Mais on a le droit de faire naître un bébé et ensuite de le mettre à la poubelle ?»« Quelle horreur !» hurle maman. « Voyons, Gudule, y a dit papa. Si on a un petit bébé, c'est pour l'aimer, pour lui donner à manger, pour l'embrasser, pas pour le jeter. » Et tous les deux, ils m'ont regardé bizarrement, longtemps, longtemps. Le lendemain, ils m'ont acheté une poupée dans un panier. C'est une poupée copiée sur les bébés. Elle n'a pas de cheveux, pas de belle robe, rien. Juste un biberon et un pyjama tout mou. Elle est moche. Je ne l'aime pas du tout. Je l'ai rangée dans un coin. Si c'est ça, les bébés, merci bien. J'aimerais tant faire comprendre à maman et à papa que le meilleur bébé, c'est moi. Moi, je suis faire comme une grande et je sais faire aussi le bébé. Par exemple, moi, je veux pas de la viande hachée. Moi, je veux biberon, bouillie, arôle. Et je lance toutes mes affaires en l'air. Mais chaque fois que je fais ça, maman s'énerve. Gudule, arrête de faire le bébé. Arrête de faire l'imbécile, s'il te plaît. Et quand je réponds, si les bébés sont des imbéciles, pourquoi que tu fais un bébé, toi ? Maman se met en furie. Gudule, ça suffit. Même la boulangère s'y met. Elle n'arrête pas de se pencher par-dessus sa caisse pour me demander. Alors, tu préférerais une petite sœur ou un petit frère ? J'ai beau faire mon nez buté et répondre, je préférerais rien. Elle recommence tous les matins. Le ventre de maman continue à gonfler comme une montgolfière. Finalement, à force de gonfler, maman est partie faire son bébé. On est restés seuls, papa et moi. Heureusement que j'étais là pour aider à la cuisine. Le premier jour, on a mangé mangé des raviolis. Deuxième jour, on a mangé des raviolis. Jour, on a mangé des raviolis. Le quatrième jour, on a mangé des raviolis. Le cinquième jour, on a mangé des raviolis. C'était super. On a aussi préparé les affaires pour le bébé. Un berceau, des jolis rideaux, un pèse-bébé, une table allongée, des biberons, un petit hochet, du lait en poudre, des stocks de couches. J'ai dit à papa, « Tu ne trouves pas qu'il prend beaucoup de place pour un petit bébé comme ça ?» Papa a eu l'air gêné. Du coup, il m'a emmené choisir ce que je voulais au magasin de jouets. J'ai pris un déguisement de vampire, une famille de robots gluants et un monstre intersidéral. Ça m'a bien remonté le moral. Et puis maman est rentrée avec le bébé. C'est un garçon. Il s'appelle Gaston. J'aime bien ce nom. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si petit, si ridé, si recroquevillé. Mais ça ne m'a pas empêché de lui dire ces quatre vérités. « Tu sais, Gaston, mon petit gars, ne t'imagine surtout pas que tu vas faire la loi dans cette maison. Je suis là depuis plus longtemps que toi et... » À ce moment-là, j'ai dû m'arrêter, parce que maman est entrée. C'est moi qui ai donné à Gaston son premier biberon. Tout doucement, comme à un petit chat. C'est bête, mais c'est vrai, c'est mignon. En plus, Marie-Aglaé m'a raconté des âneries. Mon petit frère n'a jamais vomi. Bertrand aussi s'est trompé. Mon petit frère pleure presque pas. Il a même fait son premier sourire à 2 mois. Et vous savez à qui il a souri ? À moi. Il m'aime vraiment beaucoup, je crois. Évidemment, ça me fait un peu honte à cause de toutes les méchancetés que je lui ai dites le jour de son arrivée. Il est gentil. Il a fait comme s'il avait tout oublié. De mon côté, j'essaye de l'aider. Je lui ai montré comment marchent les jouets. Je l'aide à finir sa purée. Je le défends contre la voisine qui lui tricote tout le temps des bonnets. Hier, Gaston a parlé pour la première fois. Il a dit « Dudule ». Tout le monde s'est regardé. Je n'ai pas pu m'empêcher de crier « Dudule, c'est Gudule, c'est moi !» Je m'appelle Gudule. J'ai une trousse pleine de billes, des chaussures vernies qui brillent et surtout un petit frère extra.
Quelques gouttes d'eau, de Anne Jonas et Marie Desbon, aux éditions Le Buveur d'encre.
Zaïna est née dans un pays si chaud que parfois le soleil y fait fondre les ombres. Là-bas, rien n'est plus précieux qu'un frisson d'eau sur les lèvres. Cette joie brûle toutes les autres. Juste après le tout petit peu de lait de sa mère, la bouche de Zaïna s'est asséchée. Et depuis, elle a toujours eu l'impression de mâcher le soleil. Vite, elle a appris la patience, celle qui lui a fait reconnaître entre mille le pas de son père en revenant du puits. Vite, elle a aussi appris le partage, car nul ne mérite le feu de la soif. Vite encore, Zaïna a appris à marcher. Elle était pressée de suivre son père jusqu'à l'endroit lointain où, chaque jour, l'eau attend qu'on vienne la chercher. Et puis, d'autres enfants sont sortis du ventre de sa mère. Maintenant, chaque matin et chaque soir, ils sont cinq à suivre leur père et à s'en retourner vers leur mère, une cruche posée en équilibre sur leur tête. Zaïna, l'aînée, marche toujours derrière. Elle ne parle presque jamais, car sa gorge asséchée retient tous ses mots. Elle se tait, mais elle écoute. Quand les femmes du village ramassent des fruits ou des graines, Zaïna récolte les mots tombés de leur bouche. Quand les femmes du village parlent tout en cuisant des galettes sur la pierre, Zaïna cuit doucement leurs phrases dans la marmite de son cœur. Quand les femmes du village fabriquent des paniers pour les vendre au marché, Zaïna tresse leurs histoires. Et au bout de plusieurs années de silence, cela fait tant de mots ramassés et tant de rêves approchés que Zaïna finit par se sentir à l'étroit. Il lui faut désormais un monde plus grand que les cailloux qui attendent ses pas chaque jour. Mais elle n'a pas le choix. La soif oblige sa route. Alors Zaïna ne marche plus aussi droit et ne tient plus sa nuque aussi raide. Maintenant, en revenant du puits, elle renverse un peu d'eau de sa cruche. Oh, pas grand-chose, à peine quelques gouttes. Mais à chaque fois, ces gouttes perdues lui font verser autant de larmes. Et pourtant, chaque nouveau matin, elle se promet de faire bien attention, de cesser de rêver et de ne pas quitter les yeux les pierres du chemin. De cesser de rêver et de ne pas quitter des yeux les pierres du chemin. Mais dès qu'elle marche, quelque chose arrive. Un caillou, plus beau que les autres. Un buisson qui dessine à terre l'ombre d'un lion. Un oiseau qui appelle au loin. La course d'un nuage égaré au-dessus de sa tête. Un tam-tam annonçant la naissance d'un enfant. La caresse d'un peu de vent. Un parfum perdu loin de sa fleur. Et puis un autre oiseau qui répond. Et c'est à cause de tout cela, et de mille choses encore, que Zaïna oublie ses pieds et le chemin, et que sa cruche vacille sur sa tête folle, et qu'un peu d'eau se renverse. Elle ne dit rien, et sa faute reste invisible, car l'eau perdue disparaît aussitôt, bue par la terre assoiffée. Parfois, de retour au village, Zaïna refuse de boire l'eau qu'elle n'a pas su garder. Et puis, un matin, elle décide de ne plus lever les yeux de la poussière du sentier menant à l'eau. Plus jamais elle en fait le serment. Et cela dure longtemps, si longtemps qu'elle ne sait pas en compter les jours. Mais rien ne s'arrange. Zaïna vacille de plus en plus souvent à cause du monde qui, malgré ses yeux baissés, ne lui raconte jamais la même histoire. Elle trébuche encore. Un peu d'eau coule. Zaïna pleure en silence toutes les larmes de sa honte. Mais voilà qu'un jour, où le soleil brûle encore plus fort que d'habitude, Zaïna s'écroule soudain sur le chemin. Sa cruche se brise. Son père prend alors sa fille aînée dans ses bras et la berce doucement. Le cœur de Zaïna déborde et elle raconte enfin sa tristesse de chaque jour, celle d'avoir perdu tant d'eau depuis si longtemps. Ainsi c'était toi, lui dit son père en souriant.
Tu savais donc qu'il manquait de l'eau à chaque fois ?
Demande Zaïna en tremblant. Non, j'ignorais que de l'eau était renversée. Mais je me demandais pourquoi le chemin que nous parcourons depuis tant d'années était devenu si beau. Il me semblait moins dur à marcher. Regarde autour de toi. Zaïna lève la tête et voit enfin ce que son père lui montre. Là où, au temps de ses premières années, il n'y avait que pierre et sable, poussent maintenant de milliers de fleurs visitées par autant d'insectes et d'oiseaux. Zaïna n'en revient pas. Zaïna ne comprend pas. Serait-il possible que... Oui, lui murmure son père, c'est cette eau que tu crois avoir perdue qui a fait naître tout cela. Chaque jour, nous avons peut-être bu quelques gouttes de moins, mais le monde aurait été moins beau si ces gouttes n'avaient pas été renversées. Et maintenant, à nous de te remercier d'avoir su rêver plus haut que les pierres de notre chemin.
C'est la fin de Lecture pour les Kids. Vous pourrez retrouver cette émission et la réécouter en podcast sur notre site studiozef.fr. Rendez-vous aux vacances de Noël pour découvrir d'autres histoires pour enfants. En attendant, vous pouvez évidemment vous rendre dans les bibliothèques Aglopolis pour découvrir en images les albums que vous avez entendus et écoutés aujourd'hui. Et pour en découvrir bien d'autres. À bientôt !